VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 19h à Bamako, 20h à Niamey. Dans 10 minutes, retrouvez le magazine L'Amérique et vous, présenté par Jean-Roger Bion. Mais auparavant, voici notre journal. À Bamako, au Mali, un projet d'attentat de grande envergure a été découvert après une explosion dans un domicile privé qui a fait un mort vendredi, a affirmé à l'AFP un responsable de la gendarmerie malienne. Un homme de nationalité burkinabé a été arrêté sur le site de l'explosion et aurait commencé à donner des détails. C'est donc un attentat de grande envergure qui se préparait dans cette maison. Une source à la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, a confirmé à l'AFP, la découverte par les enquêteurs d'un acte terroriste en préparation. Je vous rappelle qu'on avait découvert des détonateurs dans cette maison. Les détails de cette histoire avec notre correspondant Kassim Traoré.
L'explosion en question a eu lieu aux environs de 8h du matin. C'est vendredi 3 avril 2015 dans la périphérie de Bamako. La forte explosion a causé la mort du jeune Amadou Togo, âgé de 22 ans, gardien des lieux. Il y a eu 4 blessés. L'intensité de la déflagration a détruit une partie de la résidence et provoqué d'importants dégâts matériels sur les maisons voisines. Selon les premières enquêtes de la gendarmerie de Kalabankoro qui était sur place, c'est un accident. Par contre, l'unité antiterroriste privilégier une piste terroriste. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
C'est toujours la désolation au Kenya où les familles des étudiants massacrés tentent de reconnaître les corps de leurs proches. L'attaque des militants d'Al-Shabaab dans une université de l'Est a fait 147 morts, dont les 4 terroristes. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a appelé au renforcement de la coopération sécuritaire entre le Kenya et son pays au lendemain de cette attaque. Jean-Roger Bion.
Pour le président Hassan Sheikh Mohamud, ce massacre montre le besoin de renforcer la coopération antiterroriste entre les deux pays dans le but d'éliminer cette menace de la région. Les Chebabs, très affaiblis militairement en Somalie, ont multiplié ces dernières années les attaques de type guérilla dans leur pays, mais ils ont aussi mené de spectaculaires attentats dans d'autres pays de la région qui sont comme le Kenya engagés militairement en Somalie pour les combattre au sein de la force de l'Union africaine, l'AMISOM. En septembre 2013, les islamistes avaient notamment revendiqué l'attaque du centre commercial Westgate à Nairobi, qui avait fait au moins 67 morts. L'Est et le Nord-Est kenyan, frontaliers de la Somalie, ainsi que la ville de Mombasa, principal port de la région sur l'océan Indien, ont aussi été frappés par des attaques meurtrières revendiquées par le groupe affilié à Al-Qaïda. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, a de son côté dénoncé ce vendredi une tuerie lâche et félicité le Kenya pour sa contribution remarquable à la mission de l'Union africaine en Somalie et les sacrifices immenses faits pour stabiliser ce pays. L'Union européenne a pour sa part promis vendredi son soutien au Kenya dans la lutte contre le terrorisme.
Quelle stratégie faut-il adopter pour contrer la menace des djihadistes somaliens au Kenya? La réponse de Walid Fares, il est conseiller du Congrès américain pour la lutte contre le terrorisme. Il répond aux questions de Timothée Donangmaï.
Cela doit être un appel à la mobilisation générale au Kenya, dans la région et aussi du point de vue international. Il faut qu'il y ait des mesures stratégiques à ce point-ci, surtout aussi contrer les Shababs, pas seulement au Kenya, mais aussi en Somalie.
Mais comment contrer les Shababs au Kenya quand on sait que le Kenya a une longue frontière avec la Somalie et qu'il y a une importante communauté somalienne au Kenya?
D'abord, il faudrait faire une mobilisation intellectuelle, sociale, culturelle pour informer un peu, si vous voulez, les citoyens du Kenya comment détecter les djihadistes avant qu'ils n'agissent. Deuxièmement, certainement, il doit y avoir des ONG à l'intérieur des communautés somaliennes qui sont tout à fait opposées au djihadisme. Il faudrait entrer en contact avec elles. Les ONG, ce sont les radars, si vous voulez, que les Kenyans et les autres Africains doivent utiliser. Et troisièmement, il faut qu'il y ait une responsabilité collective avec l'Union africaine et la communauté internationale pour déclarer les frontières entre la Somalie et le Kenya comme frontières sécuritaires internationales.
Que peuvent faire des pays occidentaux comme les États-Unis dans cette lutte?
D'abord, il faudrait faire un appel très fort de Washington au peuple kenyan. Il faudrait montrer un acte de solidarité. Nous savons que le président va visiter le Kenya dans quelques mois. Mais aussi, il faudrait qu'il y ait un sommet qui doit se faire ou bien à Washington ou bien même au Kenya et la participation de chefs et de leaders, de présidents, de premiers ministres occidentaux, internationaux, comme a été le cas avec la solidarité en France. Quand beaucoup de chefs sont partis après le massacre de Charlie Hebdo, en Tunisie, après le massacre de Bardo.
Walid Fares, conseiller du Congrès américain dans la lutte contre le terrorisme, il était joint ici à Washington. En Mauritanie, le travail